est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est Pascal Lorme, fondateur de GoJob, qui nous a soufflé son nom il y a quelques semaines. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julie Davy-Copin, cofondatrice d'Ombrea. Salut Julie.
Bonjour.
Alors Julie, c'est un jour un peu particulier. On enregistre ce podcast le 29 septembre, il est 9h53. Et il y a 24 heures, il y a eu un grand changement dans la vie d'Ombrea. Alors si on avait fait cette interview il y a 3 semaines, ou même il y a 3 jours, elle n'aurait pas été tout à fait la même que celle qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Parce qu'en effet, spoiler alert, tu viens d'annoncer que tu avais cédé Ombrea à Total Energy. Et déjà, félicitations.
Merci.
Mais je te propose, avant de parler de cette nouvelle aventure, de commencer par le début et de nous raconter ce qu'est Ombrea et comment tu l'expliquerais à un enfant de 5 ans.
Eh bien, à un enfant de 5 ans, je lui dirais qu'il voit que la météo fait un peu n'importe quoi. On n'arrive pas trop à s'habiller tous les jours. On ne sait pas si on met un pull, un t-shirt. On est le 29 septembre, le matin il fait 9 degrés et en pleine journée on se retrouve avec 30 degrés. Et bien, je dirais à ce petit enfant que ces répercussions climatiques sont très embêtantes pour nous, humains, mais elles sont encore plus dévastatrices pour les plantes et les aliments que l'on consomme tous les jours, qui ne savent plus vraiment quand pousser ou quand rester au repos. Et que donc, le but de ma start-up, c'est de pallier ces effets-là et de faire en sorte que les plantes, elles grandissent dans des bonnes conditions, même si la météo est complètement détraquée.
Et alors, comment elle est née, cette idée ?
C'est une histoire assez particulière, Ombrea, parce que je nous considère, nous, donc les fondateurs, Christian et moi, donc Christian est aussi mon père dans la vie privée. On est des atypiques ou des outsiders, on nous a décrit un peu par plein de qualificatifs, mais disons
les échos ont titré comme ça sur
ouais,
toi.
Ouais, outsider. Mais j'aime bien, ça me plaît. J'ai pas de problème à ça, parce que le monde des startups, moi je le connaissais pas il y a 7 ans quand on a décidé de monter Ombrea. Moi j'étais journaliste, j'étais très contente d'être journaliste. Et Christian, lui, est agriculteur, il est toujours resté agriculteur. On est tous les deux donc très très loin du monde de l'entrepreneuriat tech. Et finalement, on est issus d'une famille d'agriculteurs où chez moi, tout le monde est agriculteur. J'ai mon oncle qui est viticulteur, ma sœur, ma maman, mon grand-père. Enfin, vraiment, je suis la seule à finalement ne pas avoir été agricultrice. Et on a toujours vécu avec des problèmes climatiques assez problématiques. C'est vraiment...
Ils sont dans quelle région ?
Ils sont dans le sud-est, à côté d'Aix, en Provence. Tous les agriculteurs peuvent te le dire, la météo, on vit toujours avec, mais ces dernières années, c'est extrêmement compliqué et l'avenir s'annonce très problématique. Et donc nous, tout est parti en 2016 sur l'exploitation familiale où mon père produisait de l'horticulture, donc du feuillage coupé. C'est un peu la verdure qu'on met autour des bouquets pour les rendre un peu plus touffus. Et il a perdu 25% de sa production en un été à cause d'un gros épisode de canicule. Et c'est vrai qu'à partir de là, il m'a dit, voilà, j'ai imaginé une solution qui puisse nous permettre de pérenniser l'exploitation familiale. Et c'est là qu'on s'est dit, punaise, mais il y a un truc là. Là, il y a un truc...
Qui pourrait aider d'autres.
Ouais. Et il y a un truc grand. On peut faire un truc grand, pas juste pour nous, mais beaucoup plus large. Et en un mois, finalement, on a tout plaqué et on s'est lancé, quoi.
Donc, t'as plaqué ta vie de journaliste.
Ouais.
Et t'es redescendu dans ton sud natal.
Ça, j'ai mis du temps. Ça, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis quelques années avant de me dire, c'est bon, je retourne dans le sud, parce que j'avais une vision un peu de l'écosystème tech, parce que du coup, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait. Et c'est vrai que dans mon benchmark, on était plutôt... 2016, c'était plutôt Station F, Paris. On avait assez peu, finalement, de réussite entrepreneuriale dans le monde
dans
de
le
la
territoire.
Tech en territoire. Donc... Un peu par mesure de précaution, je me suis dit, ok, on base la boîte à Aix, mais ça a du sens parce qu'on s'adresse aux agriculteurs, c'est important d'être sur un territoire rural, ça n'avait pas trop de sens d'être à Paris, je trouve. En revanche, je me suis dit, bon, on garde nos précautions, je reste à Paris, comme ça, s'il y a besoin de lever, etc. Moi, je suis à Paris et ça nous permettra
et
de...
Et tu es dans l'écosystème.
D'être dans l'écosystème, finalement, que je n'ai pas vraiment intégré, puisque tout s'est fait dans le sud pour nous. Mm-hmm. Et donc, après, j'ai effectivement changé ma vie et je suis allée me réinstaller dans le sud, là où j'avais grandi.
Et alors, donc vous vous dites, tiens, on développe ça pour nous, ça pourrait servir à d'autres. Comment vous allez démarcher les premiers clients, finalement, d'Ombrea?
Alors, avant de trouver des clients, il faut une solution. Et pour avoir une solution, il faut des sous. Donc, nous, Ombrea, c'était 3000 euros, quoi. On était vraiment... En plus, on était un peu fauchés. Clairement, journaliste, c'est pas le métier qui permet de devenir riche très vite. Agriculteur non plus. Donc, il a fallu, je dirais, rassembler autour de nous les premiers partenaires financiers.
La fameuse love money.
La fameuse love money qui s'est résumée, en fait, à être de la dette bancaire. On a pas ouvert le capital au début.
D'accord.
Parce qu'on n'avait pas de réseau non plus. Hein. Mmh. Donc, c'était... Et on savait qu'on avait besoin de montants assez conséquents. Puisqu'on...
Et vous êtes plutôt adressé à des banques locales
ouais. ou innovation.
Innovation.
Locale, innovation. Parce
donc,
que
ils comprenaient aussi
aboutie.
Peut-être vos
ouais.
enjeux
tout à fait.
Plus facilement qu'à Paris.
Et puis, surtout, on était sur un secteur qui, aujourd'hui, est très est plus mature. Mais les green tech, en 2016, on était assez à la marge, en fait. Donc, les green tech, en 2016, 2017, 2018, on savait qu'il allait falloir prototyper. Donc, ça veut dire prototyper du hardware, financer du hardware, sans garantie, finalement, de réussite derrière. Et s'autoriser l'échec, finalement, des premiers tests. Et c'est ça qu'il a fallu vendre aux premiers partenaires. Et ça a marché. Ils nous ont suivis. Ils ont pris ces risques-là à nos côtés. Donc, nous... Je dirais que la première étape avant d'aller chercher les clients, c'était plutôt d'essayer d'expérimenter ce qu'on a fait tout de suite. Donc, on a externalisé les ressources et on a vraiment... Les premiers financements nous ont servi à faire nos premiers prototypes pour se dire, OK, notre solution, elle marche, c'est bon. Et à partir de là, on est allé chercher les premiers clients et après, de fil en aiguille, ça s'est vraiment développé.
Et donc, cette solution, ce produit, concrètement, il ressemble à quoi? Il fait quoi?
Au début, Ombrea... Parce qu'on a beaucoup pivoté, bon, comme toutes les startups, mais au début, Ombrea, c'était vraiment un outil qui allait s'installer au-dessus des cultures et qui allait, par jeu d'ombrage, d'ouverture, de fermeture, par exemple, moduler l'écosystème en dessous. C'est-à-dire qu'en jouant sur l'ombrage, on va pouvoir ajuster la lumière, la température, l'humidité, et ainsi apporter à la plante qui est en dessous tout l'écosystème, ce qu'on appelle le microclimat dont elle a besoin, pour grandir dans les bonnes conditions. Ça, c'était le postulat de départ que l'on a finalement... beaucoup plus élargi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des applications infinies sur la santé du végétal en général, à savoir sa croissance tout au long de l'année, sa résistance face aux canicules, face aux gelées, face à la grêle. Et pour avoir cette pluridisciplinarité, si je puis dire, on s'est plutôt recentré sur le soft, c'est-à-dire qu'on a complètement quitté la partie hardware et Indus, qui était finalement assez complexe à porter. Et nous, Ombrea, aujourd'hui, on est vraiment un fournisseur de solutions et de savoir-faire autour du bien-être de la plante et de savoir quelle est la synergie possible entre production agronomique et production d'énergie renouvelable parce qu'on arrive à... On a fait partie des pionniers d'un nouveau segment de marché qui s'appelle l'agrivoltaïsme,
ouais.
qui consiste en fait à avoir des outils qui accompagnent les cultures dans tout cet enjeu de changement climatique, tout en pérennisant aussi l'accès à ces technologies-là, qui sont coûteuses, par production d'énergie renouvelable, donc avec des panneaux solaires sur ces installations qui modulent l'ombrage. Et nous, on est des experts sur la synergie entre bonne production agricole et bonne production d'énergie verte pour s'assurer de la pérennité du projet.
Alors, j'interviewais une entrepreneur il y a quelques jours qui me disait la réussite d'une entreprise et d'une start-up, c'est de savoir aussi s'entourer. Vous êtes entouré d'ingénieurs pour aboutir, j'imagine, à ces solutions.
Oui, ça a été tout de suite. Et puis, je suis assez pragmatique. Pour moi, ça a été un long cheminement, ça aussi, de me dire c'est quoi finalement l'entrepreneur, à quoi sert l'entrepreneur? Est-ce que c'est à moi de savoir tout faire? Moi, au début, je me suis dit, il faut que j'apprenne à coder, Mais non, en fait, j'ai très vite compris que mon boulot, c'était d'avoir une vision et de m'entourer des meilleurs pour pouvoir la déployer. Et c'est pour ça que très vite, on a recruté. Surtout qu'on est sur des cœurs de métier quand même assez techniques et assez précis.
Oui.
Donc, on a du data scientist, on a du dev, on va avoir de l'ingénieur agronome R&D, de l'ingénieur agronome commercial, donc on est quand même sur des compétences assez vastes
et
pointues, tout à fait. Et oui, on s'est tout de suite entouré de ces compétences-là pour pouvoir passer à l'échelle.
En fait, c'est rigolo parce que je viens un petit bout de moi. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs et mes arrière-grands-parents aussi. Et en fait, ce que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai des photos à la maison de mon grand-père jeune qui est avec ses parents dans les champs avec, avec les chevaux de trait, etc. Eux, ils avaient déjà beaucoup mécanisé et à l'époque, c'était super avant-gardiste quand moi j'étais petite de voir toute cette mécanisation. Et en fait, je projette aujourd'hui à ce qu'un agriculteur doit faire avec ce changement climatique, aussi avec l'avancée de la tech. Et c'est aussi un public qu'il faut évangéliser sur ces sujets-là. Comment vous vous y prenez là-dessus ?
Alors, c'est marrant, on pose souvent cette question du rapport entre les agriculteurs et la tech. Pour moi, et le rapport, il est déjà là. En fait, les agriculteurs ont une appétence très forte vis-à-vis des nouvelles technologies. Enfin, faut imaginer les tracteurs, l'arrivée des tracteurs quand même dans les champs, c'est un truc de fou.
Et John Deere,
c'est ça, c'est un truc de malade. Et ils sont super branchés tech, les agriculteurs.
C'est vrai ce que tu dis.
Bah ouais, et je crois que j'ai vu un chiffre comme ça qui disait que c'était 8 agriculteurs sur 10 qui utilisaient une appli pour travailler tous les jours. Les outils d'aide à la décision, on voit toutes les startups qui sont dans l'agritech, qui travaillent sur la gestion de l'eau, des ressources et qui accompagnent les agriculteurs dans la performance de leur exploitation. C'est vraiment ancré dans ce milieu-là. Moi, je dirais que on n'a pas à évangéliser. En revanche, comme tout nouveau segment de marché, il faut expliquer le but et expliquer pourquoi la démarche. Et nous, ce qui a été dès le début un postulat de départ, c'était d'expliquer aux agriculteurs qu'on était des agriculteurs nous-mêmes et qu'on portait une vision agronomique du projet pour les territoires.
Parler le même langage que.
Ouais, exactement. Parce que la question. On est aussi au carrefour des énergies renouvelables et il y a pu avoir des écueils de certains énergéticiens qui allaient un petit peu auprès des agriculteurs pour détourner des terrains agricoles pour produire de l'énergie et finalement des agriculteurs qui se retrouvaient sans moyens de production. Et très vite, il a fallu expliquer qu'on ne voulait pas être assimilé à ce genre de projet et qu'on était au contraire vertueux dans notre démarche pour porter l'agriculture, porter les territoires et que l'énergie produite allait être un formidable vecteur de croissance derrière pour pouvoir justement avoir accès à cet outil-là.
Tu le disais tout à l'heure, vous avez entrepris en famille. Alors, il y a quelques semaines, moi, j'ai eu Edwige Michaud, qui est cofondatrice de Barouders, qui a entrepris, elle, avec son mari. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui entreprennent en couple, j'en sais quelque chose. Et elle me disait, l'avantage, en fait, souvent on me dit, c'est pas trop dur. Elle me dit, l'avantage d'être avec ton mari, c'est que le soir, de toute manière, tu le vois à la maison. Donc, tu peux pas mettre un truc sous le tapis. Il faut vite trancher, en fait. Et donc, ça va plus vite sur les débats ou les choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. C'est pareil avec son papa ?
C'est un peu différent. C'est un peu différent parce que moi, le soir, je rentre chez moi avec mon mari. Donc, je c'est un peu...
Donc, les débats ont plutôt lieu le dimanche, dîner familial.
Et même pas. C'est justement ça. Le deal de départ avec Christian, que j'appelle par son prénom d'ailleurs, c'était de se dire, OK, bon, on se lance dans ce truc-là, mais il y a toute une famille autour. Enfin, c'est pas comme dans un couple chez nous. Il y a quand même... Il y a ma maman, il y a ma sœur. Donc, à un moment donné, il faut...
T'as qu'une sœur ?
Oui, j'ai qu'une sœur. Il faut aussi intégrer le reste de la famille. Et si on parlait tout le temps de boulot le week-end, je pense que ça aurait été très vite invivable. Donc, on s'est dit, dès le départ, c'était un pacte. On a deux téléphones, le perso, le pro. Si c'est boulot, on s'appelle sur le pro. Si c'est perso, on s'appelle sur le perso. Et quand on ferme la porte, les associés se disent au revoir, quoi. Et après, c'est papa et plus Christian.
Et toi, tu fais ce switch de l'appeler.
Franchement, très facilement. Très facilement. Très, très facilement. Et la preuve, ça fait 7 ans que ça dure et ça fait 7 ans qu'on fonctionne comme ça et que ça marche super bien.
Et lui, il a un jamais, ma chérie, qui sort dans une réunion.
Je le tue s'il fait ça. Jamais, non, évidemment. Mais ce qui est trop cool de travailler en famille, c'est que déjà, je saisis la chance inouïe de travailler avec mon père. Et je savoure chaque moment que je passe avec lui parce que la vie est courte.
Ouais. Et puis, c'est un moment de vie intense, incroyable, intense. De partager ça avec son papa.
Tout à fait. Et une fierté immense aussi de le voir finalement perdre 30 ans de se retomber dans la jeunesse finalement parce qu'on est une équipe super jeune et il est hyper jeune dans sa tête et de le voir comme ça super dynamique dans ses projets, je suis trop fière de lui. Et puis surtout, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est-à-dire que quand on est en meeting, on se regarde même pas du coin de l'œil. On finit chacun les phrases de l'autre, on sait exactement où on veut aller parce qu'on se connaît parfaitement en fait. Et ça, c'est un confort, mais de fou.
Et la place justement de ta maman, de ta sœur, mais aussi de ton mari dans cette association ?
Ils sont forcément associés au projet parce que c'est dévorant. c'est absolument dévorant. Et d'ailleurs, ils ont été tous d'un soutien absolument fabuleux ces 7 dernières années et on n'aurait jamais pu se développer et vivre tous les moments d'une difficulté extrême sans leur soutien. Mais ils restent nos proches. Donc c'est du soutien actif, mais pas du soutien actif opérationnel, si je puis dire.
Ils ne s'immisçaient pas dans les décisions.
Pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et ça ne les intéresse pas, je pense que ce n'est pas leur boulot.
Ouais. On l'a dit donc en introduction, tu viens donc de céder Ombrea à Total Energy. C'était un but de vendre ?
Alors, c'était pas un but de vendre. En revanche, c'était un but à un moment donné de nous adosser à un industriel pour vraiment passer à l'échelle. On savait qu'on avait un projet qui était très grand. En tout cas, la vision qu'on en avait il y a 7 ans et c'était vraiment de se dire on touche du doigt vraiment un projet qui va changer la vie de milliers de personnes. Et si on veut vraiment le déployer à très très grande échelle, il va falloir à la fois des moyens et une vision très 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 forte et très ambitieuse pour le porter. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous on a fait plusieurs levées successives et qui nous ont doté des moyens pour justement porter ce projet.
Et là, avec des fonds européens, français?
Des fonds français. On a fait la première levée, c'était avec la région sud, Crédit Agricole, et la deuxième levée, on a levé un peu plus de 10 millions en 2021, donc il y a 2 ans, avec Mirova, Accélération Capital, donc Fonds Impact, et CMA-CGM.
Ouais.
Et deux entrepreneurs aussi qui nous ont accompagnés, qui ont été hyper présents à nos côtés. Donc oui, on a été super bien accompagnés. Donc finalement, les capitaux, on les avait. On avait des investisseurs qui étaient prêts aussi à nous accompagner sur du long terme. Mais cette opportunité d'être adossé à un industriel, mais géant, et de se dire que notre projet allait pouvoir passer à une échelle mais dont on n'aurait même pas pu rêver il y a 7 ans, bah pour nous, c'était l'opportunité incroyable qu'il fallait saisir.
Quand t'as été contactée ?
J'ai été contactée. Alors, c'est trop drôle la façon dont on a commencé à travailler avec eux. C'était en 2019, donc ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et ils ont vu un micro-portrait de moi dans Les Échos qui annonçait, je crois, notre première levée de fonds. Donc, on avait levé 1 million, donc c'était un tout petit deal. Et ils avaient envie de se projeter sur les sujets agricoles. Et ils ont vu ce papier et on a été contactés donc, pour entamer les échanges avec eux. Donc, on a noué un partenariat commercial
avec eux
qui a très bien fonctionné pendant 4 ans. Et s'est posé la question de l'avenir de ce partenariat en se disant comment on passe à l'échelle finalement, maintenant on se connaît bien. Et c'est la raison pour laquelle on est venu à effectuer cette opération.
Et la personne qui t'a contacté chez eux, c'était plutôt directeur INO, c'était quel type de profil ?
Écoute, non, c'était pas directeur INO, c'était plutôt branche métier sur la partie renouvelable.
La partie renouvelable, ok. Et elles se sont passées comment ces négos ?
Comme toutes les négos, épuisantes. Ouais. Donc là, je suis fatiguée.
Ça ne se voit pas.
C'est gentil, merci. Mais elles ont été fluides. Je pense que ça, c'est l'avantage en fait d'avoir travaillé ensemble pendant 4 ans. C'est que je connaissais mes interlocuteurs. Et on savait de quoi on parlait. J'ai pas eu à pitcher le modèle, j'ai pas eu à réexpliquer finalement la plus-value d'Ombrea pour les agriculteurs. Tout ça, c'était déjà fait, on se connaissait. Donc finalement c'était de l'OP, quoi. C'était de l'OP et de la strat et de se dire c'est quoi la feuille de route qu'on construit ensemble et les modalités. Et voilà. Et c'est du coup beaucoup plus confortable de négocier dans ces conditions.
Oui, parce que si on ne vous connaît pas et qu'on ne sait pas que vous êtes travaillé ensemble, on peut se dire c'est David contre Goliath dans cette, dans cette négo.
Et c'est drôle parce qu'on a participé à un prix justement de David avec Goliath. Et on avait fait
Lab,
avec Total. Ouais, exactement, on l'avait fait avec Total. Mais non, pas du tout. On a échangé. Enfin, on a échangé et on se connaissait. Donc finalement, tu pars d'une base qui est hyper solide et transparente.
Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour toi et ton quotidien ?
Alors, beaucoup de choses et en même temps très peu. Ce qui va changer, qui est fondamental pour moi, ça va être cette charge mentale d'être finalement toujours dans, comme beaucoup d'entrepreneurs, dans une course de levée de fonds et d'imaginer toujours des étapes à court terme.
Ouais.
Ça, je pense que c'est de quitter le court terme pour passer dans du moyen long terme, dans une construction durable. Ça va changer dans mon quotidien d'entrepreneur et j'en suis absolument ravie de pérenniser mon projet aujourd'hui. Et de dire que c'est plus un projet, de dire que c'est du déploiement en grande échelle. Et là, de me dire que je vais être entièrement focus avec mes équipes sur du déploiement, je suis trop impatiente, quoi. Vraiment, ça, c'est trop bien. Et ce qui va pas changer, c'est que on reste en place, Christian et moi, mes équipes restent en place et mes locaux restent en place. Donc tout le socle que l'on a construit reste là avec une grande autonomie d'action. Et donc, en fait, voilà, c'est beaucoup de choses changent, mais en même temps, une liberté finalement que j'acquiers par cette opération.
Et des moyens pour...
Ouais, scaler. Des moyens, une vision, parce que le financier, on peut le trouver. C'est, enfin, le financier, moi, j'avais des actionnaires, une fois de plus, qui me suivaient. J'ai levé il n'y a pas longtemps. C'est plutôt une vision. Une vision et l'assurance de me dire que dans 10 ans, quand je me baladerai en France avec mon petit garçon et qu'on verra du Umbrea partout, je dirais, ben voilà, l'impact, en fait, il est là. Et tu le vois, c'est nous qui l'avons construit.
Ouais. Ouais. Et vous étiez aligné avec Christian sur cette stratégie, sur l'offre aussi qui a été faite ?
Il n'y a jamais eu aucun désaccord sur la vision strat entre Christian et moi. Il y a eu toujours eu beaucoup de désaccords opérationnels, mais c'était vraiment sur des sujets très annexes, sur des sujets structurants de vision, de valeur et de parcours d'entrepreneur et de parcours de boîte. On a toujours été 100% alignés.
Parfait associé.
Ouais, vraiment, j'ai de la chance.
On a un autre podcast qu'anime mon associé Thomas qui s'appelle Cash Out, qui raconte les exits en musique. Et souvent, on leur pose la question du jour de la signature, dans quel état d'esprit ils étaient. Donc peut-être qu'un jour, tu passeras à son micro, mais je prends cette question de l'autre podcast. Ici, est-ce que ça m'intéresse souvent de savoir dans quel état d'esprit on est le D-Day ?
On est dans un état d'esprit où, déjà, quand on prend sa voiture, on fait très attention. Voilà, moi, c'était surtout de me dire, oula, je fais attention, il ne faut surtout pas que je fasse un coup de volant là, dans le fossé, ça met vraiment à mal tout le monde. Non, mais sérieux, c'est vraiment, on est un peu sur le qui-vive jusqu'au bout. Un peu comme pendant une levée de fonds, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas signé, il y a toujours ce truc où tu dis, bon, bah, ça peut planter, quoi. Donc, une extrême prudence. Donc, le cerveau, il n'est pas formaté pour se dire, je me lève et youpi, c'est bon. Absolument pas. Au contraire, moi, j'étais focus quand je me suis levée. Et après, quand on signe, l'émotion qu'on ressent...
T'as signé en physique ou en DocuSign Est-ce que tout le monde était là autour de la table
On était tous là, mais dans des... Je peux pas trop dire les conditions dans D'accord, lesquelles ça okay. s'est fait. Mais... Donc en fait, quand
t'étais pas toute seule derrière
J'étais pas toute seule derrière mon écran. Voilà, non. Okay. Et donc, quand tu signes, alors t'es focus jusqu'au bout pour pas qu'il y ait d'erreur, pas qu'il y ait de problème, tu relis les trucs, enfin voilà.
Pas que ton stylo bave.
Non. Donc non, t'es focus. Je dirais que c'est vraiment ça, focus. Je lâche pas la garde. Et du moment où c'est signé, je pensais qu'il y aurait un truc de pouf qui redescend, mais pas du tout. En fait, j'étais en mode, bon bah ça y est, on va se faire un café, on repart au boulot et on y va. Et je pense que ça prend plusieurs jours avant de vraiment se dire... je l'ai fait. Et je ne suis pas encore dans cette phase-là. Là, je suis dans une phase très de construction, en me disant, c'est génial, il y a plein de trucs à faire.
Du next step,
j'ai envie de me mettre au boulot, quoi.
Là, en fait, c'était un palier.
Ouais, c'est ça. Et c'est un problème, parce que... mais c'est un truc... Enfin, je voudrais que je me fasse psychanalyser là-dessus, mais je n'arrive pas à savourer des moments de joie qui arrivent, parce que je pense toujours à l'étape d'après.
Je crois que c'est un signe que beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, partagent.
mais c'est nul, parce qu'il faut... Et les équipes ont besoin aussi de ça. Elles ont besoin de voir leur patron célébrer, être content et se poser, dire voilà, ouf, on souffle un peu et on y va. On a besoin de ce temps de digestion. C'est extrêmement important. Donc, je travaille sur moi, j'essaie de le faire, mais je pense qu'il faut voilà, un peu de temps pour processer ces choses-là. Mais c'est vrai que la réaction est très différente que celle que j'aurais imaginé
ouais. avoir. Et celle de ton entourage
Celle de mon entourage. Beaucoup de joie, vraiment de la joie infinie. C'est de la joie infinie, vraiment. Beaucoup de fierté aussi. J'ai reçu beaucoup de messages d'amis, vraiment, qui étaient profondément heureux pour nous, en fait. C'est surtout de la joie, de la fierté.
Beaucoup de bienveillance, donc.
Oui, énormément.
Tu disais quand même que vous aviez fêté hier midi, parce que l'annonce, entre la signature et l'annonce, s'est passé un petit temps. Hier, il y a eu l'annonce officielle, donc vous avez quand même un petit peu fêté.
On a un petit peu fêté ça. Il fallait rassembler les équipes, évidemment, pour qu'elles profitent de ce moment-là aussi. C'est une très belle opération pour elles. Et j'avais envie en tout cas de passer un moment un peu hors du temps à leur côté pour qu'on se pose et qu'on se dise voilà, allez c'est bien, on a bien bossé pendant 7 ans. Donc avant de repartir et là d'accélérer, on se prend la journée pour profiter tous ensemble.
Justement, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette période de négo qui a duré un petit temps, plusieurs mois?
C'est l'incertitude, toujours. Je pense que... On sait que cette opération est porteuse de sens, qu'on construit une feuille de route qui est géniale, qui est hyper enthousiasmante. En fait, chaque élément de négo, on se dit, c'est ça que je veux. Et mais tant que c'est pas signé, il y a toujours cette inquiétude de se dire mince, si ça se fait pas, mais c'est trop bête quoi. C'est absolument trop bête.
Oui, parce
quoi.
Que tu te projettes dans un projet.
Ouais, c'est ça. Moi, c'était la peur d'être déçue. C'était la peur de me dire finalement, si ça se fait pas, j'aurais eu les étoiles plein les yeux pour rien. Et je pense que c'est ça qui a été un petit peu compliqué. Parce que autant la charge de travail, voilà, on arrive à la gérer, on a l'habitude de la gérer. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est l'effet déceptif que je voulais absolument éviter.
Et en plus, je crois que toute cette période de négo était concomitante avec un événement heureux dans ta vie perso.
J'ai le sens du timing, en fait. Oui, j'ai eu mon petit garçon le 2 janvier dernier. Donc, c'est vrai qu'on était en pleine négo. Il a 9 mois. Aujourd'hui, on annonce le deal. Un deal comme ça prend plusieurs mois. Donc, évidemment, il est arrivé en plein milieu des négos.
Bah, en fait, il a participé à tous les due
deal. Il a tout participé, mais oui, je faisais mes calls avec lui dans les bras. Enfin, c'était, il a vécu cette OP. Il a vécu cette OP à mes côtés, et je lui raconterai quand il sera plus grand. Je suis trop fière de ça. Et donc oui, il y a beaucoup de fatigue accumulée, effectivement. Mais je me dis que c'est forcément une histoire de vie, de famille, de cœur, l'entrepreneuriat. Et surtout quand on est dans un exit comme ça, je serais absolument trop fière de lui raconter qu'il a participé à ça. Et c'est, je pense, grâce à lui aussi que je l'ai si bien vécu, cette phase de négo.
En tout cas, c'est un beau témoignage pour lui. Dernière petite question sur ce sujet. On voit dans les médias des étudiants de grandes écoles, d'ingénieurs, de commerce, etc., qui interviennent de manière quelquefois aussi violente, du moins verbalement, pas physiquement, sur des prises de position par rapport à des mastodontes, Total, si là on parle de Total Energy, mais il y a quand même Total, et donc beaucoup de gens s'arrêtent à la première partie qui est Total. Comment toi, tu te positionnes justement par rapport à ces sujets-là ?
Alors, ça va être un avis très personnel qui ne représente pas du tout une com officielle du groupe ou même d'Ombrea. Moi, je considère qu'à un moment donné, ce sont aux gros acteurs d'amorcer le changement. Et aujourd'hui, et pour le pratiquer depuis 4 ans, moi, je fonctionne par les preuves. Finalement, je suis un peu une scientifique. J'aime bien le concret, quoi. J'aime bien que quand on m'annonce un truc, les actions suivent derrière. Et sincèrement, moi, j'ai testé pendant 4 ans de bosser avec eux. Et je vois les moyens qui sont mis en place pour accompagner la transition énergétique du pays. Et je peux réellement assurer, témoigner et l'OP là, qu'on a finalisé en témoigne aussi. C'est que réellement, il y a une ambition très très forte d'amorcer le changement. Et moi, je pense que le changement, il doit être inclusif. Inclusif par le fait de vraiment y intégrer l'ensemble des parties prenantes. Et pour être inclusif, il faut absolument y associer les grands groupes. Ça sert à rien d'avoir 2-3 associations qui militent si finalement l'impact, il est réduit sur quelques centaines de personnes. Le travail des assos, il est indispensable au même titre que l'engagement des grands groupes. Alors peut-être qu'ils vont pas tous à la même vitesse. En tout cas, moi, j'ai signé avec un groupe qui va à une vitesse très forte. Et aujourd'hui, c'est Total qui a racheté Ombrea. Et c'est Total qui se positionne aujourd'hui comme avec une ambition extrêmement forte pour accompagner les agriculteurs dans cette transition-là. Donc moi, je le vois vraiment comme un changement très fort, et je fonctionne sur moyen, preuve. Et c'est ça aujourd'hui qui me convainc.
Et c'est sur ce projet que tu as signé.
Ouais, et je suis convaincue à fond. Hein. Je suis une entrepreneuse à impact. Ça fait partie des valeurs de la boîte, de mes salariés, de moi. Et j'ai d'ailleurs accompagné les salariés dans toute cette annonce de l'arrivée de Total à nos côtés. Ils travaillent avec
eux
au quotidien.
Oui, c'est vrai, ça, comment les équipes l'ont pris
Écoute, on a été dans une transparence forte.
Dès le départ ?
Dès le départ. Et c'est ce qui a... Bah, c'était important. Ouais. Moi, c'est une aventure collective et je ne me voyais pas faire dans mon coin. On est quasi 50 aujourd'hui. D'accord. Et je ne me voyais pas le construire ce projet dans mon coin sans y associer l'ensemble de mes collaborateurs. Et surtout qu'ils sont extrêmement engagés, ils croient en ce qu'ils font, ils sont convaincus d'avoir un impact sur leur entourage. Donc aujourd'hui, le message, c'est vraiment, on va avoir les moyens d'avoir un impact très large. On a une dizaine de sites construits aujourd'hui avec Ombrea, et là, on va passer à 1,5 giga. C'est colossal. Et là, l'impact, je le mesure, en fait.
Tu disais, tu es entrepreneur à impact, tu es aussi une entrepreneur très investi dans l'écosystème, parce que je ne l'ai pas dit en introduction en te présentant, parce que j'étais focus sur Ombrea et cet exit que tu viens de faire, mais tu as intégré la French Tech ex-Marseille, région sud, en tant que présidente déléguée.
au tout début, aux côtés de Pascal.
Et maintenant, tu es présidente.
Et maintenant, je suis présidente.
Depuis 2022.
Ouais.
En plus de toutes ces casquettes. C'est important pour toi d'œuvrer dans cet écosystème?
Ouais, c'est essentiel. Et ça rejoint le pourquoi, finalement, je suis entrepreneur alors que je n'étais pas destinée à entreprendre. J'ai jamais vénéré les chefs d'entreprise ou l'entrepreneuriat. J'en avais une vision même assez caricaturale. Donc, ça ne m'attirait pas du tout.
Mais est-ce que... parce que moi, souvent, je me suis posé cette question... Finalement, quand tu es agriculteur, tu as une forme d'entrepreneur.
Ouais, tu es entrepreneur. Mais j'avais une vision justement de... Tu es un entrepreneur, mais c'est terriblement difficile. Donc j'avais une vision de difficulté. Et moi, j'ai vu mes parents vraiment, vraiment, vraiment dans des moments de grandes difficultés. Et je m'étais dit que je ne voulais pas vivre ça à mon tour. Donc j'avais une vision soit de l'entrepreneuriat, on va dire familial, agricole, oui, beaucoup de travail, beaucoup de courage pour travailler au quotidien, et à côté des chefs d'entreprise un peu en mode costard cravate qui brille, pas très marrant, 50 ou 60 ans plus, enfin plutôt masculin, et franchement je me reconnaissais ni dans l'un ni dans l'autre, et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'entreprendre, mais pas pour entreprendre, j'ai choisi parce que j'avais envie d'agir et pour un sujet pour lequel j'étais convaincue que j'allais apporter une solution qui allait changer la donne. Et donc, avec ce driver-là, ça me permet finalement d'avoir un mode d'engagement sur des sujets annexes à ma vie chez Ombrea, dont la French Tech. C'est que je vois l'entrepreneur, moi, vraiment dans une vision beaucoup plus globale avec ses engagements associatifs. Et même quand on parle, par exemple, dans le podcast, on peut faire passer des messages. Moi, je le vois vraiment comme la porte-voix de plein de sujets qui, aujourd'hui, me révoltent ou, au contraire, sur lesquels j'ai envie de m'engager.
Comme
quoi, d'y donner du temps. Par exemple, sur la question de l'innovation en région, sur les territoires, moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit une belle revanche des territoires sur le Covid. Il y a eu au moins cet atout-là, c'est que ça n'a jamais été autant branché que d'entreprendre en région. Moi, quand je racontais que j'avais monté ma boîte à Aix, au début, on me disait ouais, « Mais qu'est-ce que tu allais t'isoler là-bas? Qu'est-ce que tu fais? T'es folle et tout. » Et là, maintenant, c'est « Ah, mais c'est génial et tout. Moi aussi, j'ai envoyé mes équipes qui télétravaillent. Certains sont en full remote à Aix et tout. » Donc, c'est
t'as vécu
super
ce changement
branché.
De ouais, l'intérieur.
Je l'ai vu et au-delà de le voir, je suis hyper emballée à l'idée d'associer un collectif d'entrepreneurs à mes côtés au sein de la French Tech, et on est tous hyper engagés pour promouvoir notre région, pour promouvoir les actions qui ont lieu. Enfin, Marseille, aujourd'hui encore, enfin, je sais pas quand les personnes écouteront ce podcast, mais il y a encore une fusillade ce matin à Marseille qui a été absolument catastrophique, et il y a quand même encore une image assez délétère de notre territoire, alors qu'il s'y passe des choses formidables. On a des actions complètement dingues, on a eu le pape, on a eu la Coupe du Monde, on a des réussites entrepreneuriales complètement incroyable sur notre territoire, et moi je suis extrêmement fière de donner aussi une image super positive de ce territoire. Donc ça, typiquement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le sujet de l'agriculture, les sujets aussi de transmission auprès des jeunes publics de ce qu'est l'entrepreneuriat et des publics divers. On parle beaucoup des femmes, mais moi je pense qu'il y a aussi la question des quartiers prioritaires, de la ville. Il y a aussi des questions de comment on fait venir la tech dans les zones rurales qui sont finalement assez éloignées de ces milieux-là. Et pour moi, être entrepreneur et toute la, on va dire, la visibilité médiatique que cela nous apporte nous permet de faire passer des messages et nous aussi d'influer des changements.
J'ai un message pour toi.
Vous avez un message.
Eh bien, Julie, Ombrea, c'est un projet qui sauve la planète. Mais je sais que tu as plein d'autres projets et plein d'autres idées. Quelles sont tes autres propositions pour sauver la planète ?
Alors, je précise à nos auditeurs, parce que toi, tu as peut-être reconnu sa voix, mais que c'est donc Pascal Lorme qui est ton bro qui te pose cette question.
Ah là là, Pascal, en plus, il ne me l'a pas envoyé avant, c'est pas cool. Pascal, alors comment je pourrais te répondre ? Moi, je pense que pour sauver la planète, il faut traiter aujourd'hui les urgences sociétales et sociales. Je pense que c'est la priorité. Je pense qu'on a trop souvent traité la question de l'environnement uniquement via le prisme écologie-environnement, alors que pour sauver la planète, moi je pense qu'il faut avoir une vision vraiment intégrative de l'ensemble des parties prenantes. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est malheureusement extrêmement fragmentée, complètement fracturée. Et je pense que le gros enjeu aujourd'hui pour sauver la planète, c'est de s'assurer que le monde de la tech va pouvoir s'adresser à l'ensemble des parties prenantes. Le monde de la tech est encore aujourd'hui beaucoup trop auto-centré et propose des solutions qui sont géniales hein, pour sauver la planète, mais ce sont des solutions techniques. Et moi, j'aimerais qu'on sorte un petit peu des solutions techniques et qu'on se pose un petit peu, là, tous, entrepreneurs des Green Tech, et qu'on se dise que ces solutions-là, déjà, il faut les co-construire avec pas uniquement des personnes qui sortent d'HEC et qui sont plutôt des hommes et qui ont la quarantaine, mais avec d'autres profils qui vont utiliser finalement ces technologies, qui vont faire partie des générations futures, qui vont justement déployer ces technologies pour sauver la planète. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de rassemblement et de faire en sorte que une personne qui vit dans un HLM, dans une tour à Marseille, dans les quartiers difficiles, se sente tout autant concernée par ces sujets-là que toi et moi autour de la table. Et j'ai pas la solution, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une des priorités de la French Tech.
Mais en tout cas, ça fait partie de ton engagement,
oui,
auprès de la French Tech, mais aussi auprès peut-être des incubateurs dans lesquels tu es impliqué.
Tout à fait. Il faut changer, il faut diversifier les profils du monde de la tech, et il faut aussi porter une image publique qui change, qui soit beaucoup plus ouverte. Parce que nous, on se dit tech, on parle de tech, mais je pense que vous allez dans la rue et on arrête un passant et on lui parle de tech, je pense que ça lui dit pas grand-chose. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Parce qu'on aura beau porter toutes les innovations les plus formidables pour sauver la planète, si finalement, elles n'ont aucun impact parce qu'elles sont pas généralisées à l'ensemble de la population, je pense que ça ne servira à rien.
Et puis peut-être aussi que, alors ça commence à changer, mais pendant longtemps, tech était associé à tout ce qui était digital.
Ouais, tout à fait.
Et aujourd'hui, il y a quand même un panel de solutions tech qui est beaucoup plus large. On parle de green tech, de juridique, enfin il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que ces sujets-là, il faut aussi les évangéliser, pas qu'à l'écosystème.
Absolument pas, surtout pas.
Je te propose qu'on parle des premières fois quand on est entrepreneur. Ta première nuit blanche, Julie ?
Le premier jour.
Où tu te dis, mais pourquoi je me lance là-dedans ?
Ça, tu te le dis après, quand t'as les premières difficultés. Au début, t'es tout feu, tout flamme, tu te dis, ouais, là, je tiens un truc. Et donc, tu fais que taffer. Et c'est après, quand il y a un peu les premières difficultés, que tu te dis, bon, là, effectivement, j'ai besoin de dormir, et pourquoi je fais ça ?
Ta première big mistake ?
Il y en a eu beaucoup, des erreurs. Ouais, je pense que ça, c'est... Il y a eu beaucoup de petites erreurs, mais si on parle vraiment de grosses erreurs, ça a été pendant ma première levée de fonds en 2019, où je me suis faite maltraiter par un réseau de business angels, où je suis allée pitcher le projet Embrea. Et à la sortie du pitch, j'ai un des business angels qui m'a appelé sur mon portable et qui m'a fait la morale pendant 30 minutes en me disant que je parlais trop, que j'avais pas la bonne jupe qu'il fallait et qu'à un moment donné, j'étais un peu hystérique et qu'il fallait que je me calme. Et là, j'ai eu la pire réaction qui soit, c'est que j'ai dit « Oh, bah désolé !» et j'ai raccroché. Et j'ai fait que pleurer. Et sincèrement, pour moi, ça a été la plus grosse erreur vis-à-vis de moi-même de pas lui dire qu'à un moment donné, va te faire voir, quoi. Tu vois, j'aurais clairement dû lui rentrer dedans et je ne l'ai pas fait. Première erreur. Je ne me suis pas respectée ce jour-là.
Donc, ça, c'est un message pour les auditrices qui nous écoutent. Premier renoncement.
Il y a des renoncements tous les jours. Mais j'ai pas trop de mal avec... Je pense que je vais pas te parler d'un premier renoncement parce que j'ai pas de mal, j'ai pas de regret, par exemple. J'ai aucun renoncement. La vie est faite de renoncements. Tous les jours, je renonce à plein de choses. Mais c'est OK, quoi.
Ton premier client.
C'est, il s'appelle Anthony, et Anthony produit des pivoines dans le sud de la France, à côté de Hyères. Et c'est un jeune agriculteur hyper engagé dans les nouvelles technologies. Et ce qui est trop drôle, c'est que donc il a installé nos solutions et on a fourni en pivoine le Prince Albert de Monaco.
Ah, génial, ouais. Belle story, ça, à raconter.
C'est drôle.
Allez, une petite dernière, premier salaire.
Tard, super tard. Et pas très haut. Le premier salaire, je pense que je l'ai touché après ma première levée de fonds, donc début 2019, sachant qu'on a créé en 2016. Et je me versais vraiment, je pense que j'étais le 8e salaire de la boîte, je devais être à 2000 euros.
Au bout de combien de temps, tu disais ?
3 ans et demi.
Et pareil pour Christian ?
Ouais.
Vous avez été toujours pareil. Allez, une petite dernière, première fois dont toi, tu voudrais nous parler.
Il y a plusieurs premières fois. Je dirais qu'à chaque fois, quand tu me poses cette question, les premières fois qui me viennent en tête, c'est des premières fois avec du collectif. C'est-à-dire que je me rappelle de mon tout premier board avec après ma première levée de fonds avec mes actionnaires autour. Moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Je savais même pas ce que c'était. Moi, un comité stratégique, un conseil d'administration, c'est hyper. Alors j'avais bossé comme une tarée. Je voulais maîtriser chaque chiffre et tout. Enfin, j'avais vraiment. Je voulais être la bonne élève. Qu'à la fin, mes actionnaires disent c'est bien, t'as bien bossé. Bon,
tu voulais être l'outsideuse, bonne élève.
Exactement. Je voulais qu'on se dise bon, la fille, elle a bossé quoi. Et elle mérite l'argent qu'on a mis dans sa boîte, ce qui est nul, vraiment nul, parce que c'est un travail de co-construction avec notre actionnaire. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et l'autre première fois, bah, c'est, je pense, alors la montée de l'équipe, elle s'est faite progressivement, mais je dirais que le flash là que j'ai, c'est quand on a déménagé dans des grands bureaux, beaux bureaux, les dream bureaux, quoi, les trucs où tu te dis, mais là, j'ai waouh quoi. Et tu passes le lendemain du déménagement où tu ouvres la porte et que tu vois là toutes les têtes qui te regardent, tu te dis mon Dieu, en fait c'est ma boîte, ce sont mes salariés et c'est dingue quoi. Et là c'est ce genre de première fois où il y a les papillons dans le ventre et ce truc de je suis à la bonne place quoi.
Et qui te donne encore plus d'énergie pour
incroyable.
Allez, maintenant on va parler de toi.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Alors, tu l'as dit, tu n'étais pas forcément destinée à devenir entrepreneur. À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille ?
Moi, je voulais être libre quand j'étais petite fille. Quand tu me demandais... Déjà, je n'ai pas aimé être petite fille. J'ai détesté être enfant, j'ai détesté être ado. Moi, je voulais être grande tout de suite.
Tout de suite.
Je voulais qu'on me lâche, je voulais faire ma vie, en fait. Ça m'insupportait qu'on m'infantilise. J'avais très vite envie de faire ma vie. Et je voulais être libre, c'est-à-dire que quand on me demandait ce que je voulais faire, j'avais envie de... Alors, c'est pas une vie sans contrainte, c'était plutôt une vie de saveur où je sentais que j'allais me lever pour faire quelque chose qui avait du sens. Quoi. J'avais envie d'avoir ce choix-là. Et j'ai trouvé dans le journalisme, en tout cas, le métier qui allait me permettre de vivre ça, de changer de sujet tous les jours, de me lever le matin en me disant que j'allais apprendre plein de choses.
T'étais sur une spécialité particulière ?
Non, et justement, ça me plaisait de ne pas avoir de spécialité. J'ai fait de la radio, j'ai une formation de radio. Et après...
D'où cette voix bien posée.
Merci, mais ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Mais oui, c'était ce que j'aimais. J'aimais parler aux gens aussi, j'aimais rencontrer les gens et j'aimais comprendre. C'était surtout ça qui m'attirait dans ce métier.
Et raconter des histoires.
Ouais, raconter des histoires, c'est trop bien.
Donc ça a dû être un atout pour le développement après de
Bah oui, mais ça, je l'ai compris après. Mais au début, j'étais vraiment dans un syndrome d'imposteur, mais incroyable, en me disant... D'ailleurs, quand je me décrivais, on me demandait « Mais t'es qui ?» Et donc, je disais que j'étais la responsable com d'Ombrea. J'arrivais pas à me dire cofondatrice et CEO d'Ombrea. Non, j'ai mis peut-être 2 ans avant vraiment de l'assumer. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, Julie, tu travailles autant que Christian sur travailler sur la strat, les levées, etc. Et tu continues à te dire responsable de la com. C'est complètement débile, en fait. C'est nul. Et ça m'a mis du temps vraiment de
m'assumer. Et quel a été le déclic ?
Ça a été progressif et je pense que j'ai fini par comprendre que si j'avais envie qu'on arrête de me voir comme la stagiaire qui apporte le café,
il fallait vraiment que... Ou comme la
fille de son père. Ouais. Ça, c'était très, 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 très... très embêtant. Les gens pensaient souvent au début que Christian avait créé la boîte et que je l'avais rejoint, qu'on était dans un transfert familial. Et lui, il a toujours été super cool là-dessus. Il a toujours mis les gens à leur place en disant ben voilà, on est ensemble, on a monté ensemble la boîte, on a ensemble la co-direction et voilà quoi. Enfin, on est égaux. Et je pense que oui, il y a eu plein de petits déclics, mais le pire étant un candidat en entretien d'embauche que j'accueille et qui me dit moi, j'ai rendez-vous avec Monsieur Davico, je prendrai un café s'il vous plaît. Et il est allé s'asseoir alors que c'était moi qui lui faisais passer l'entretien. Il y a eu une sorte de gêne comme ça. Là, je me suis dit bon. Là, mon coco, ça va pas être simple pour toi, cet entretien, quoi.
Donc après, tu t'es présentée. Bonjour, Julie Davico.
Petit moment de gêne, ouais. C'était sympa.
Et il a dû se demander.
C'était tendu, ouais.
J'imagine. Je sais pas s'il vous a rejoint, du coup.
Non.
Bon, bah, si tu nous écoutes.
Tant pis.
Bah, ce sera une leçon aussi.
Bah, renseigne-toi quand tu vas passer un entretien, quoi.
Bah,
voilà,
ouais,
c'est tout.
C'est clair. Et puis, je pense que le fait aussi que bah, ton papa soit un homme et toi, que tu es une femme.
Oui, je pense.
Plus jeune.
Et j'avais 24 ans quand j'ai créé Ombrea avec Christian, donc 24 ans, c'est hyper jeune, surtout sur un sujet comme celui-ci, où il faut beaucoup de capitaux, il faut beaucoup de... sur un sujet un peu industriel aussi, donc je pense qu'on partait pas avec les mêmes facilités. Ouais.
Tout à l'heure, tu parlais de ton premier round quand t'as fait ta première levée, que t'as eu deux entrepreneurs qui vous ont beaucoup accompagné. T'as eu des mentors dans cette expérience ?
J'ai eu des vrais mentors, vraiment. Des vraies personnalités qui m'ont qui ont structuré ma vie d'entrepreneur.
Ouais.
Vraiment.
Tu veux nous en parler ?
Je peux en citer, quelques-uns. Je vais en citer deux. Deux qui m'ont permis de passer à l'échelle. Je pense à Rodolphe Saadé, qui est le président directeur général de la CMA-CGM, très impliqué sur son territoire à Marseille, et qui est à la tête d'une fleuron français, et qui a une vision extrêmement moderne de l'innovation, des startups, de son territoire, et qui a toujours répondu présent à mes côtés, qui a toujours eu des conseils très, très fins, et je le remercie infiniment de m'avoir accompagné. Et je pense à Julien Enaudi aussi, qui est le patron d'Ortech, encore un milieu un peu industriel, mais Julien, qui a été l'un des cofondateurs de PeopleDoc, donc ouais. Il connaît très bien aussi le monde des startups. Et Julien, c'est le genre de personne qui peut être mobilisé jour et nuit quand j'ai eu un coup de stress sur un sujet ou un autre pour avoir son regard. Et c'est rare parce que ces personnes ont peu de temps et ils le font par pur altruisme et envie d'aider. Et ça, je saisis en tout cas la chance d'avoir croisé leur chemin un jour.
Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu as ce rôle de mentor avec...
Oui, alors c'est compliqué pour moi de dire mentor parce que je considère...
D'accompagnement.
Oui, d'accompagnement plutôt parce que je trouve ça un peu prétentieux, mais oui. Oui, je connais des entrepreneuses, c'est plutôt des femmes que j'accompagne, qui ont des projets qui démarrent ou qui sont certaines dans des phases un peu plus de développement. Et oui, j'ai pu les accompagner, justement, elles ont eu des problèmes dans des levées de fonds où elles me passent un petit coup de fil en me disant « Tiens, est-ce que tu peux pas checker telle clause ?» et puis je vais la vérifier. « Ah tiens, tel investisseur, est-ce que tu l'as déjà croisé ?» et qu'est-ce que t'en penses ?» Donc oui, ou de les voir, boire un café avec elles quand elles ont un petit coup de mou. Enfin, c'est hyper important et je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes. Mais en tout cas, ce que j'ai reçu, j'ai vraiment super envie de le retransmettre aussi.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais mis du temps à déménager, à prendre toutes tes valises pour retourner dans ta région natale, parce que tu disais, il faut que je sois à Paris, c'est quand même là qu'il y a l'écosystème, etc., quand tu as commencé la boîte. Comment tu t'y es prise, justement, pour commencer à t'immiscer dans cet écosystème? Parce que, comme tu disais, tu n'avais pas forcément le réseau dans cet écosystème. Tu as fait comment?
Eh bien, j'ai fait preuve un peu de culot, je pense.
Bah, voilà le culot.
Ah bah voilà le culot, il est là. Je me suis incrustée, clairement. J'ai fait un peu la petite souris au début. Et puis, j'ai tracé mon bout de chemin, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont habitués à me voir. Et j'ai noué des amitiés très fortes. Et je pense surtout que je n'attendais rien. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'intégrer ce milieu, c'était que je n'étais pas dans l'attente. C'est-à-dire que je me suis pas intégrée dans le monde de la tech en me disant je vais faire la pub de ma boîte, c'est génial et ça a un sens. Non, j'y suis allée parce que je me suis dit tiens, c'est cool, il y a des gens sympas, on est en train de construire des trucs super chouettes qui ont de l'impact, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et je pense que comme j'étais dans cette posture de don plutôt que de réception, ouais. Forcément, ben ça a donné envie aux gens de travailler à mes côtés. Et Pascal Lorne a été évidemment hyper aidant pour m'intégrer dans ce réseau-là. Il a été super. Et il y a eu plein d'autres personnalités qui m'ont aidée. Et finalement, je me suis sentie très vite intégrée alors que je débarquais complètement. Donc, je pense que c'est ça, en fait, la clé. C'est plutôt de... Les raisons qui nous poussent finalement à faire quelque chose, il ne faut pas le faire par intérêt, il faut le faire parce qu'on est convaincu.
Et parce qu'on défend une vision.
Oui, exactement.
Et tu parlais donc de l'aspect tech. Très vite, tu t'es aussi rapproché des gens green tech, agri tech.
Oui.
Ou c'est quelque chose que tu ignorais en fait?
Alors, je l'ignorais totalement, ça c'est clair. Oui. Et déjà, je ne savais pas qu'on pouvait mettre un mot avec tech derrière, tu vois. Donc, on partait vraiment de super loin quand même dans mon approche de ce monde-là. Moi, j'ai trouvé aussi une famille absolument géniale dans l'agritech, qui est donc la famille de la Ferme Digitale, qui est une asso qui joint l'ensemble des startups qui bossent sur les questions de l'agri. Et là-dessus, j'ai rencontré des gens mais absolument géniaux qui militent vraiment pour l'agriculture française et pour sa transition autour de l'innovation. Et là, pour le coup, à Paris. Et sincèrement, je m'éclate aussi à leur côté parce que ça a du sens, quoi. On est là pour porter une vision commune et faire en sorte de booster les boîtes sur un secteur d'activité en France qui est centrale. On parle de l'agriculture en France, quoi. Donc, le salon de l'agriculture, chaque année, on y va tous ensemble. On prend des stands, mais immenses, où on démontre que l'innovation, bah, elle passe par l'agriculture aussi, et que c'est cette nouvelle vision-là qu'on a envie de porter aussi auprès du grand public.
Alors, on vient de parler de cette famille de cœur, mais tu as ta vraie famille aussi. Donc, on l'a dit et on l'a compris, Christian et ton papa. Quelle relation tu as avec ta maman et qu'est-ce qu'elle t'a transmis, que toi, tu aimerais transmettre à ton fils et tes autres enfants, si tu en as d'autres après?
La constance. Ma maman est une personne qui est constante dans la mesure où elle est un socle. C'est-à-dire que moi, je trouve que le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à son enfant, c'est le cadeau de la sécurité émotionnelle, sécurité affective. Et elle a toujours été constante dans ses promesses, dans la vision qu'elle porte, dans l'amour qu'elle nous porte avec ma sœur. Et c'est un socle, c'est-à-dire que je sais que quand je l'appelle, je sais que quand je vais la voir, et je sais que ce sera toujours pareil, et surtout, je sais qu'elle sera toujours là. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose que l'on puisse offrir à un enfant.
Dans cette bulle familiale dans laquelle tu es très impliquée aussi donc dans l'écosystème tech, t'as ta boîte, tu viens de vendre, vous avez des nouveaux steps à passer. Comment tu trouves du temps, toi, pour te ressourcer, pour reprendre l'énergie, pour t'inspirer aussi?
C'est essentiel et je pense que c'est un truc que j'ai un peu trop négligé ces dernières années. Alors l'inspiration, je la trouve quand même, je me nourris aussi beaucoup des personnes que je rencontre. Je pense que c'est quelque chose que je garde aussi de mon ancien métier où j'adore les rencontres. Donc je me nourris beaucoup des gens et j'adore apprendre plein de trucs sur les gens. Enfin, je trouve ça génial. Non, ce que je fais, c'est que je m'accorde plus de temps pour moi maintenant. Alors j'ai la chance d'avoir un mari qui est super présent, super engagé aussi, donc c'est vrai qu'à la maison la répartition des tâches me permet d'avoir beaucoup de temps pour moi et je suis très chanceuse pour ça. Donc j'adore lire, je lis beaucoup, je fais du sport,
je
fais de l'escrime.
Ah ouais, ouais. Depuis toujours.
Et
qu'est-ce que tu retrouves dans l'escrime qui t'aide dans ton quotidien?
Oh là là, je retrouve plein de choses. Déjà, c'est un sport qui est très cérébral, dans lequel on doit toujours apprendre à connaître son adversaire c'est une danse, l'escrime. Donc, quand on connaît bien son adversaire, on apprend à l'observer, c'est là qu'on peut justement gagner. C'est parce qu'on va pouvoir trouver sa faille et peut-être le faire preuve de ruse parfois. C'est un sport aussi que je trouve très exigeant. J'aime la rigueur que requiert ce sport. C'est très rigoureux en termes de technique. Et physiquement aussi, c'est un sport qui est très cardio, qui demande beaucoup d'engagement. Et c'est un sport qui a des belles valeurs. C'est des belles valeurs de respect aussi de l'adversaire. C'est un art martial, donc un sport de combat. On salue l'adversaire, on le respecte. J'aime bien ces valeurs-là, ça me parle beaucoup.
Donc, ça t'a guidé c'est... dans les négos avec Total?
Ça m'a bien aidé, oui. Alors, j'ai pas beaucoup pratiqué parce que pendant cette période-là, j'étais juste rincée. Donc, très compliqué de trouver de l'énergie pour pratiquer par ailleurs. Mais là, oui, je m'y remets bien et ça me fait beaucoup de bien. Donc, voilà, je lis beaucoup parce que j'ai fait une prépa littéraire. Donc, c'est vrai que la lecture a toujours été structurante dans ma vie.
Et puis, quel type de...
Contemporaine.
D'accord.
Mais c'est de la lecture assez contemporaine.
Ton dernier coup de cœur?
Ah, il y en a beaucoup. Alors, dans le monde de la tech, c'est très drôle. Il faudrait lire. Je conseille la lecture. Alors, il faut beaucoup d'autodérision parce qu'elle se moque vraiment des start-upers du début à la fin de son bouquin. C'est Maria Fouché sur Les Impatients.
Ouais.
Où elle raconte ce parcours-là entrepreneurial. C'est vraiment marrant, mais il faut vraiment le lire avec beaucoup de recul. Mais donc voilà, j'adore lire, j'adore cuisiner, j'adore mes chats, mon chien, ma famille. J'ai une vie assez simple finalement et assez cocon.
Et t'arrives à bien compartimenter finalement ces moments de pur boulot et ces moments de... je lâche.
Pas du tout.
D'accord, on dirait comme ça, comme tu nous le dis. Je me dis, ouais, elle y arrive, c'est ouf.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis pas le genre de meuf qui se lève à 6 heures pour faire son yoga et qui... Non,
dans le miracle du matin.
Non, c'est pas trop, je suis pas très miraculeuse le matin, je te le confirme. Mais c'est hyper compliqué de tout concilier. Moi, ce qui est terrible, c'est que je mouline tout le temps. Donc, mon gros enjeu, c'est d'arrêter de mouliner et de couper. Et ça, j'ai pas encore trouvé la recette miracle.
Je ne sais pas s'il y en a une.
Non,
je pense pas. Il y a d'autres projets que tu aurais aimé lancer, à part Ambrea?
Mais 10 000, moi je...
Après ou avant que tu sautes le pas de l'entrepreneuriat?
Tout le temps. Moi, tu me demandes ce que j'aurais aimé faire de ma vie, mais je te sors mes 10 000 métiers. J'aurais adoré être cuisinière, j'aurais adoré être sommelière, j'aurais adoré être, pourquoi pas, agent de la DGSE, j'aurais adoré être écrivaine.
Je crois qu'ils recrutent. Hein.
Oui, j'aimerais pas du tout faire ce métier. Du tout, du tout. Et je pense que je serais très mauvaise. Mais dans mes rêves, en tout cas, je suis alimentée tout le temps par des rêves et je trouve ça génial de se dire que dans une vie, enfin aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai fait plein de trucs et il me reste encore tellement de choses et je sais pas ce que je ferai encore dans 10 ans. Et c'est ça qui est trop chouette, c'est de se laisser la possibilité finalement de faire ce qu'on a envie de faire. Pourquoi pas, quoi.
Et ton métier initial, le journalisme, il te manque ?
Il me manque pas, non. Il me manque pas parce que j'arrive à retrouver ce qui m'animait à cette époque dans mon quotidien aujourd'hui. J'écris beaucoup aussi, donc je pense que la littérature et le fait de les mots, en tout cas, me font partie de mon quotidien aussi. Ça, je
t'écris pour toi ?
Oui, j'écris pour moi. Ça me plaît beaucoup.
T'aimerais publier un jour ?
Peut-être. Écoute. C'est pas d'actualité, mais qui sait. En tout cas, je le fais pas pour ça. Je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire et que ça j'aime les mots, en fait. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je garde ça. Je rencontre des gens, j'apprends plein de trucs. Et puis, quand même, la presse vit un moment très compliqué. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont journalistes et je les trouve très courageux de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui parce que le métier est sacrément compliqué.
Bon, en tout cas, tu nous dis que tu aimerais faire plein de métiers. Peut-être qu'il y en a un jour que tu feras. C'est peut-être celui-là.
Parce que c'est notre projet !
Bon, je pense que c'est plus qu'une vocation qu'un métier.
Faut y aller là. En tout cas, c'est pas la mienne, hein, je te le confirme.
C'est drôle parce que souvent on nous dit ça à ce micro. Alors, imaginons que tu deviens présidente de la République ou tu prends la tête d'un ministère suite à ton choix. Quelle serait la première mesure que tu prendrais ?
Je vais pas parler de mesure, mais plutôt de ministère que je choisirais.
Tu as le droit. On a le droit de tout là.
Formidable. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, la logique vaudrait que je te dise ministère de l'Agriculture ou de l'INO ou de l'Éco. Bon, non, en fait, je ne vais pas te dire ça du tout. J'aurais pu choisir éducation. J'y ai un peu réfléchi parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à changer qu'il faut partir par la base. Mais bon, je pense que je serais un peu frustrée parce que ça prend trop de temps. Donc, je vais plutôt te dire ministère de la Ville ou la cohésion des territoires. Ça rejoint ce sujet. Alors, c'est pas très sexy dit comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment, j'insiste, hein, moi, je suis extrêmement inquiète dans ce pays de voir combien la fracture sociale s'intensifie, en fait. Et ça me fait très, très peur. Ça me fait très, très peur parce que j'ai l'impression qu'on passe sous silence le quotidien de millions de Français qui, aujourd'hui, peinent à finir la fin du mois avec une inflation qui est terrible. Je pense qu'on est dans une situation d'urgence et qu'il faut absolument que l'on traite cette question de rassemblement collectif et de faire en sorte que chacun se sentent à sa place dans la République. Je pense que c'est ce sujet-là que j'attaquerai directement.
Et tu sais par quel bout tu le prendrais ?
Je fais pas de politique, donc je laisse les actions politiques
à ton cabinet ministériel.
Exactement, j'y fais bosser et après je vais porter les sujets.
Wow. On a parlé de claques au moment du Covid et de ce mot confinement qu'on ne connaissait pas et qui est apparu dans nos vies. Bon, aujourd'hui, le Covid, il est derrière nous. Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne devrait pas être confinés à nouveau demain. Toi, si tu devais nous partager une claque, ce serait laquelle ?
Je suis quelqu'un qui aime bien fonctionner en prenant des claques au quotidien. Alors, dit comme ça, ça peut... j'aime pas me faire maltraiter, mais disons que je considère toujours que les meilleures actions et les meilleures idées viennent souvent d'un choc. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, pour se prendre un choc, pour se dire là j'agis. Et c'est quelque chose qui marche assez bien chez moi. J'aime bien me challenger tous les jours et donc les claques sont assez... C'est dans ce sens-là que les claques sont quotidiennes et que je suis un peu à l'affût de me dire à un moment donné comment je me bouge pour changer ou pour insuffler un changement. Disons que la dernière grosse claque que je me suis prise, c'est quand j'ai assisté à la messe du pape au stade Vélodrome à Marseille, donc
la semaine dernière.
Puisqu'on tourne ça le 29 septembre. Et c'était absolument incroyable, à la fois de ferveur populaire et surtout ce discours absolument fort, incroyable, qui m'a prise aux tripes, de prise de conscience, d'appel de prise de conscience des Européens face aux défis migratoires. Je veux dire, dans ma ville, à Marseille, on est tourné vers la Méditerranée. Dans une indifférence générale, des milliers de personnes meurent dans cette mer. Et ce qu'a dit François ce jour-là, c'était vraiment sortez un petit peu de votre confort, regardez ce qui se passe autour de vous. Des gens meurent et dans l'indifférence générale, comment peut-on accepter cette situation et comment peut-on continuer à vivre normalement en sachant ça et en ne faisant rien. Et ça, clairement, moi, je me suis pris une baffe ce jour-là en me disant, peut-être à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire pour insuffler un peu de changement, mais en tout cas, rien que le fait de mettre des mots sur ce sujet, d'en parler publiquement avec tout l'essor que ça a pu avoir, j'espère en tout cas que cette claque, elle sera collective.
T'y allais en tant que pratiquante ou t'y allais parce que tu t'es dit c'est un événement assez incroyable à Marseille, c'est un moment fort que j'ai envie de partager.
J'y suis allée en tant que croyante et en tant que habitante de ce territoire qui recevait pour la première fois depuis 500 ans le pape. Voilà, c'était, je pense que c'est un événement historique incroyable. Même si j'avais pas été croyante, je pense que j'y serais allée. Mais là, oui, c'est vrai qu'en plus, il y a eu, ça a généré une sorte de questionnement intérieur, de finalement de me dire, le socle, il est là, la base, elle est là. C'est finalement l'autre. Comment on traite l'autre? Comment on l'inclut? J'ai l'impression de faire que ça, de parler d'inclusion depuis tout à l'heure et de.
Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. À tous les niveaux, en fait.
Oui. Et je pense qu'on le On a tellement considéré que c'était une fatalité qu'on ne le traite plus, ce sujet, finalement, d'aider son prochain, quoi. Et en tout cas, je pense que même les non-croyants, il y avait beaucoup de non-croyants à mes côtés ce jour-là, tout le monde avait les larmes aux yeux. Clairement, ça nous a tous énormément bousculés ce jour-là.
Ouais, c'était un vrai moment de cohésion.
Oui. Collective.
Julie, je vais te laisser le micro pour un sujet de ton choix.
Carte blanche. The next.
C'est hyper chaud. écoute, je vais te parler d'un sujet. Alors, ça me vient là. Hein. J'ai pas du tout préparé le truc, donc je vais le dire vraiment très à chaud. J'avais pris position il y a quelques mois, quand j'étais enceinte, justement, sur LinkedIn, sur mon profil, sur la nécessité, je pense, des entrepreneurs de se livrer. C'est un truc que j'ai mis du temps à faire. Et je pense qu'on est encore trop dans un super warrior et tous ces trucs autour de l'entrepreneuriat des femmes et tout. On doit toujours tout gérer de front, de façon parfaite. Je pense qu'il faut aussi parler des failles. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais par exemple, je vais parler d'un truc un peu perso. Mais moi, mon petit bébé, je l'ai eu par PMA. On a mis beaucoup de temps avant de l'avoir. Et pendant ces années où ça a été très compliqué, j'ai rien dit à mes équipes et j'allais tous les jours au travail alors qu'on vivait des moments super, super compliqués à la maison. Et je pense, avec le recul, que j'aurais dû en parler. J'aurais dû en parler pour dire que c'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là, mais que c'était peut-être pour ça que j'étais un petit peu sèche ou peut-être un petit peu plus désagréable que d'habitude. Et je pense que j'ai voulu assumer un peu cette armure de super forte et tout, genre la fille qui gère tout, c'est trop forte et tout. Et alors qu'en fait, c'était un désastre, quoi, vraiment. Donc j'aurais aimé faire différemment. Et donc dans cette carte blanche, j'aimerais justement peut-être porter un message un peu différent d'assumer sa vulnérabilité en tant que manager, d'en parler librement, et que finalement je pense que j'en serais sortie beaucoup plus forte que ce que j'aurais pu redouter. Et finalement, nous, ça nous a permis par exemple de mettre en place des actions chez Ambrea pour accompagner par exemple des collaborateurs et collaboratrices qui vivent des fausses couches, qui sont dans des parcours de vie difficiles d'adoption. Par exemple, on a mis en place des actions, on leur donne des jours de repos.
D'accord.
Pour accompagner ça. Mais par exemple, tu vois, j'ai mis en place ces actions là sans dire que je vivais ça. Et je pense que ça a été une erreur fondamentale de management, mais qui a été, je pense, le fruit d'une construction un peu collective, un truc un peu induit comme ça, où il faut garder la face, quoi. Et je pense que ça a été une erreur. Et j'invite, en tout cas, si des entrepreneurs nous entendent, hommes comme femmes, d'assumer sa vulnérabilité quand on vit des moments un peu compliqués. Ça peut être des maladies, ça peut être des parcours de vie qui sont pas simples, d'assumer, d'en parler. Et les équipes, finalement, elles réagissent super bien en face. Et ça fait du bien d'en parler.
parce que c'est aussi une des faces du rôle modèle, en fait. On n'est pas infaillible. Exactement. On a aussi des choses qui arrivent dans nos vies. Et pouvoir le partager et le dire, bah, ça peut aussi rassurer d'autres qui vivent ça
à
tes côtés.
Tout à fait.
Et encourager de se dire, bah, en fait, si, c'est possible d'être entrepreneur.
Exactement.
Et d'avoir ce parcours-là quand même. Et finalement, tout finit bien.
Et puis surtout, je me disais, mais quelle légitimité j'ai de, à un moment donné, dire « Ok, on est dans un cadre bienveillant dans la boîte, on est transparent, je suis là pour vous accompagner si vous avez des moments compliqués. Surtout, sentez-vous à l'aise, on est dans un safe, on est dans une safe place. » Si moi-même, je ne l'applique pas, c'est nul, quoi. C'est complètement nul. Donc, tu as raison, il faut vraiment, vraiment, vraiment changer de paradigme là-dessus.
T'en as eu, toi, des rôles modèles, justement ?
Très peu. Et c'est ça qui me... J'ai eu des mentors, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont accompagnée et aidée, mais j'ai eu très peu de rôle modèle finalement. Et
ça t'a manqué ?
Ça m'a manqué, ouais, complètement. Ça m'a beaucoup manqué. Et j'espère en tout cas que les petites filles aujourd'hui, quand si elles se font interviewer, je sais pas, dans 10, dans 20 ans, pourront dire, bah ouais, j'en ai plein, un tel, voilà. Donc non, j'en ai pas eu beaucoup.
Bah, en tout cas, on souhaite qu'il y ait de plus en plus de rôle modèle, que ce soit des garçons, des filles, pour les filles aussi. Et Agathe Giraud, qui était assise à ta place, t'as écouté le podcast en venant, disait un truc très juste, et elle disait il faut qu'on encourage en effet les filles aussi à prendre des carrières qui aujourd'hui sont plus portées par des hommes, mais il faut aussi encourager les petits garçons qui, s'ils ont envie de faire une carrière littéraire, d'y aller aussi, et que c'est dans les deux sens. Et ça revient aussi à ce que tu disais, je crois, tout à l'heure sur... Je parle beaucoup d'inclusion, mais ces dernières années, notre société a été très... ça a été très clivant, en fait, et c'est beaucoup d'idées qui s'affrontent. Et ce que tu défends aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble, je pense que c'est la bonne voie.
Et de la nuance, surtout.
Et de la nuance. Et nous, on adore la nuance ici.
Ouais, ça manque un.
Avant de finir cette émission, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, si toi, Julie, tu avais dû choisir une sista, c'est-à-dire une femme entrepreneur sur laquelle mettre un coup de projecteur. Alors, j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une. Mais bon, si tu devais en choisir une, tu choisirais qui et pourquoi ?
C'est super compliqué parce que j'ai plein de copines qui sont des femmes entrepreneuses toutes incroyables. D'ailleurs, au bord de la French Tech, à Aix-Marseille, on est à parité. Donc,
génial.
J'ai autant de femmes que d'hommes et elles sont toutes mais dingues. Je pense à une parce qu'elle a un parcours très engagé aussi dans les quartiers nord à Marseille, qui s'appelle Diana Bajoura, qui a cofondé et qui pilote une start-up qui s'appelle Davidé. Ils sont quasi une soixantaine de salariés aujourd'hui, installés pareil dans les quartiers nord, dans un incubateur qui s'appelle L'Épopée à Marseille. Et donc, ils développent des applis innovantes, ils sont beaucoup sur la réalité virtuelle, etc. Et Diana est aussi présidente d'une asso qui s'appelle Cap au Nord Entreprendre, qui fédère tous les entrepreneurs qui ont décidé d'installer leur boîte dans les quartiers nord de Marseille.
Génial.
Et donc, elle est hyper, hyper engagée sur ces questions d'inclusion et hyper engagée aussi dans la tech. Et c'est une personnalité vraiment, vraiment exceptionnelle. Et en plus, elle est super jeune et elle est géniale.
Eh bien, on lui fera un petit coup de projecteur. Cette année-là, bientôt, c'est Big, c'est le grand événement qui rassemble le plus grand nombre d'entrepreneurs en Europe. Le thème de cette année, c'est la fierté. De quoi t'es fière ?
Je suis fière de tout, en fait. C'est ça qui est...
Mais c'est génial.
Mais oui. J'ai du mal souvent à savourer les choses positives, mais je suis très fière. Je suis fière de plein de trucs. Je suis fière de mon pays qui permet aux entrepreneurs comme moi d'avoir leur chance. Ça, je pense que j'y pense beaucoup là, du fait d'avoir justement été acquise par Total Energy. Je me dis, mais mon Dieu, dans un autre pays, jamais on m'aurait donné cette chance-là. Et ça, je trouve ça génial. Je suis fière de cet écosystème qui évolue, qui devient de plus en plus mature et qui est en train de changer, de se métamorphoser. Je suis très fière de ma boîte, de mes salariés. Je suis très fière de ma famille. Je suis fière de moi aussi d'avoir fait ce que j'ai fait. Alors c'est pas de la fierté. Je pense qu'il faut qu'on assume en France d'être fier. C'est pas de la prétention que d'être fier. Être fier, c'est dire là à un moment donné ce que j'ai fait c'est cool. Et dire ce que j'ai fait c'est cool, ça veut pas dire c'est bien, j'arrête de bosser maintenant et voilà. Ça n'a rien à voir. Être fier, au contraire, c'est ce qui donne justement, je pense, toute l'énergie pour aller vers la prochaine bataille.
Eh bien, je crois qu'on peut finir cette émission sur ces belles paroles. Merci Julie. On t'attend au micro de Cash Out. sur notre autre format d'ici quelques mois et on pourra découvrir ta playlist parce que c'est le podcast qui raconte la session d'entreprise en musique. Et merci de cet échange pétillant et plein d'énergie ce matin.
Avec plaisir, merci.
À bientôt.